J'avais quelques slides, mais je préfère finalement le faire sur un ton conversationnel, c'est-à-dire d'abord remercier, parce que j'ai beaucoup appris en écoutant Renaud Vedel. Alors, moi, de dire que je n'ai pas du tout cette expertise-là sur le champ global des politiques de l'IA, du coup, je vais faire des remarques un peu générales et puis avec des petits débranchements aussi. Le premier, c'est peut-être de dire, voilà, dans les années 60, dans le monde informatique, il y avait deux grandes écoles qui sont toujours structurantes en réalité. Il y avait un type qui s'appelait Doug Engelbart et son laboratoire à Stanford voulait augmenter l'intelligence des humains avec des machines. Et ce type est à l'origine, avec plein d'autres, mais de la souris, de l'interface graphique, du hypertexte et en fait du monde numérique dans lequel on vit. Et puis juste à côté, c'était un labo où ils se disputaient tout le temps, c'était John McCarthy. Et lui, il voulait faire des robots autonomes et intelligents. Et lui, son laboratoire, c'était de mettre l'intelligence dans l'automate. Et donc, ces deux conceptions, ils se disputaient, ils se disputaient, leurs chercheurs, c'était horrible. Soit on met l'autonomie et l'intelligence dans l'automate, soit l'automate rend la société plus intelligente. Bon, moi, je vais vous proposer une perspective très radicale. Je pense qu'en réalité, on est toujours, c'est toujours Doug Engelbart qui gagne. Voilà. Et même aujourd'hui, ce qu'on appelle l'IA, c'est précisément la victoire de Doug Engelbart sur le projet de l'IA de McCarthy. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre la technique tout seul, et ça veut dire que dans les débats qui nous concernent aussi, on ne peut pas dire que c'est techniquement réglé, mais il y a un problème avec l'opinion, parce qu'en réalité, la technique et l'opinion, et la société, et nos représentations, et les débats, ils vont ensemble. Donc, il faut toujours les articuler, ce qui était l'option de Engelbart. Ma deuxième remarque introductive, c'est sur IA. Alors, c'est vrai, ce que je vais dire est un peu radicalement idiot. Mais en réalité, on est très ennuyé avec ce terme. On est très, très ennuyé avec ce terme. Parce qu'on est en train d'appeler tous les systèmes informatiques IA. Et donc, aujourd'hui, on a mis tellement de choses dans l'IA que du coup, quand on fait des règles d'éthique de l'IA, alors moi, je partage, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, et évidemment, la synthèse du Bergman Klein et Center est très bonne, etc. Mais quand on a un mauvais concept de départ, on fait de la mauvaise éthique, c'est-à-dire qu'elle est trop générale. On voit bien les bases et elles sont très importantes. Il faut les rappeler sur l'explicabilité, la transparence, etc. L'accompagnement de process, la non-automatisation de la décision. C'est bien, mais en réalité, concrètement, quand on est en train de mettre en place dans une administration un service, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. J'exagère un tout petit peu, mais c'est ce que je voudrais dire. Alors, je voudrais commencer par un petit peu d'histoire de l'IA, puis après, je voudrais vous donner quelques petits cas d'algorithmes d'État que moi, j'ai un tout petit peu regardé, en réalité, et du coup, qui permettent de poser des questions, mais alors là, très prosaïques, de sociologues. Pourquoi il y a un problème avec l'IA comme notion? C'est que, historiquement, alors moi, j'ai été beaucoup intéressé à ça, on a fait un papier pour le rappeler, avec des collègues, on avait enterré l'IA dans les années 90. C'est-à-dire ce terme, on en avait, mais on pensait s'en être débarrassé. Hein, parce que c'est un mauvais concept, ça renvoie à l'idée d'autonomie du système technique de façon forte. Et surtout, ce qu'il avait mis en place faisait des trucs qui ne marchaient pas. Voilà, qui ne marchaient pas. Et donc, on a une sorte de chose assez singulière. Alors, c'est vrai qu'il y a des IA. Il faut le rappeler, comme l'a très bien fait Renaud Revel. Moi, je vais pour dire qu'en réalité, il y en a une qui marche aujourd'hui. Et puis les autres qui se sont réveillés, mais vraiment, c'est les morts-vivants, qui viennent essayer de redire, de prendre le train en marche. Mais historiquement, c'est un peu singulier. Alors, il faudrait que je refasse toute l'histoire, ce qui est un tout petit peu compliqué à faire, mais on peut dire que les réseaux de neurones sont nés dans les années 50 avec la cybernétique, McCulloch et Pitts, et une machine étonnante qui s'appelle le perceptron de Frank Rosenblatt. Elle a été éliminée du champ scientifique par l'arrivée de l'IA en 1956 parce qu'elle s'est posée symboliquement comme étant la possibilité de faire des opérations cognitives dans des machines. Le programme de l'IA que John McCarthy et évidemment tous les autres vont déployer dans les années 50 jusque dans les années 90, c'est de mettre de la logique du raisonnement, du traitement des connaissances dans les systèmes. Et donc, il n'y a pas besoin de données, il faut en fait du programme, il faut du script, il faut des règles, il faut de la logique, il faut etc. Et ce programme a donné deux vagues qui n'ont jamais marché avec beaucoup de financement, beaucoup de promesses, etc. Je caricature, qui ont mal marché, etc. Il avait écarté les réseaux de neurones initiaux des années 50, et puis depuis les années 2000, on voit, mais c'est vraiment une culbute historique extraordinaire. Il suffit d'écouter d'ailleurs les chercheurs de l'IA, ils racontent l'incroyable ostracisme dont ils ont été victimes dans les années 90. Ils avaient été exclus du champ de l'IA depuis bien longtemps, et tout d'un coup, les réseaux de neurones sont revenus pour faire des tâches perceptives. Et donc, l'expression perceptive est absolument juste. Il se passe des choses incroyables dans la perception de l'image, du son, du texte, etc. Mais on n'est pas dans le raisonnement et dans la logique où on fait des choses évidemment très intéressantes en informatique. Il y a des progrès, mais il n'y a pas une nouveauté centrale. Donc moi, j'ai tendance à dire, je vais très vite, que si on veut être précis sur l'IA, il faut dire que c'est du traitement de données avec des méthodes d'apprentissage plus ou moins sophistiquées, dont l'une d'elles, les réseaux de neurones, parce que ce n'est qu'une des applications, connaît produit des résultats très performants et très étonnants, et qu'en réalité, quand on fait briller aujourd'hui le thème de l'IA, on va chercher des choses autour de cette capacité technique-là. Reconnaissance d'image, la voiture autonome c'est aussi de l'image, la traduction automatique c'est du neurone sur le texte, etc. etc. Mais il y a un conflit au sein du monde, on pourrait dire académique, épistémologique sur ces questions, qui est un conflit qu'on appelle connexionnisme versus symbolique, et qui donne pour l'instant sur cette dimension perceptive une importance forte aux connexionnistes. Mais on a dans le débat public, dans le discours des experts, dans toute cette mode et cette vague qui entoure l'IA, on met plein de symboliques partout, alors qu'en réalité, il n'y a pas de tâche majeure dans le symbolique. Donc, dans les trois piliers qu'évoquait Renaud Revel tout à l'heure, du perceptif, logique et raisonnement et robot, logique et raisonnement avance, mais enfin, c'est de l'informatique assez classique dans laquelle on n'a pas du tout d'autonomie d'IA, me semble-t-il, et on est assez loin d'y arriver. Et sur les robots, on y arrive parce qu'on intègre des fonctions perceptives dans les robots. Il y a évidemment des progrès qui sont faits, mais l'idée de l'autonomie du robot ou l'autonomie dans le langage naturel, etc., en dialogue naturel, etc., on n'y est vraiment pas du tout. Donc moi, je suis plutôt pour une définition un peu restrictive de l'IA au fait que les techniques connexionnistes perceptives sont en train d'avoir des succès importants. Je voulais faire un deuxième petit point, alors qu'il y a un point plus de sociologue et sur des techniques d'IA. Donc, on entend bien IA, machine learning, deep learning sur des grosses bases de données, c'est-à-dire, et les données, c'est le monde. Donc, c'est bien le monde et un système technique qui calcule le monde, et peut-être qu'il faudrait que je redise cette chose essentielle, parce qu'elle nous vient de la cybernétique, ce qui est très frappant, c'est le retour d'un modèle de cybernétique. L'automate s'adapte au monde. Le principe de la cybernétique, c'est qu'on prend des signaux dans l'environnement, on fait une prédiction à partir de ces signaux, on regarde l'effet qu'a ce signal sur le monde, on le réintègre comme une donnée, et on est adaptatif. Et donc ça, c'est une des composantes qui devient très très forte, en réalité, dans beaucoup de systèmes à base de données numériques, et qui se sont évidemment beaucoup développés avec les données du web. Alors, moi, j'ai une interprétation de sociologue, là. Donc, je vous donne mon interprétation du grand processus qui est là. Il y en a plein d'autres. Donc, moi, c'est parce que, de façon un peu obsessionnelle, en fait, c'est la question de recherche qui m'anime. C'est l'idée que ces nouvelles techniques de calcul statistique, elles expriment en réalité toute leur utopie ou leur projet, qui est très imparfait en réalité, parce qu'il faut beaucoup de données, il faut des conditions très particulières, dans l'idée de la personnalisation statistique. Et donc, on a une autre forme de représentation de la société qui est en jeu. Et je pense que je vais y revenir tout à l'heure, ça a des conséquences importantes sur les questions de politique publique et d'algorithmes de l'État. Je ne vous fais pas tout le topo, mais on a décrit les sociétés, on a stabilisé les sociétés en les décrivant par le haut avec des catégories. C'est au cœur même du travail de l'État, des institutions statistiques, de définir, de nous ranger, de nous classer dans des catégories et d'établir des corrélations entre les catégories entre elles. C'est ce qu'ont fait les démographes, les criminologues, les économistes, les sociologues, les gens du marketing. Et en réalité, tout le travail, et avec l'appui de l'État, la statistique et l'histoire de la statistique est partie liée à celle de l'État, de représenter la société par le haut avec des catégories. Et pour faire on va prendre l'exemple de marketing, pour faire des segments. On appartient à tel segment de marché, etc. etc. Ce n'est pas l'individu, c'est l'individu en tant qu'il est représenté par une catégorie d'âge, de sexe, de profession, de niveau de revenu, etc., qu'on va associer à une représentation de la société. C'est au cœur même, je pense, de notre imaginaire collectif, de la construction des États et de la société. Alors, mon interprétation, c'est que le projet des big data, et des big data calculés par l'IA, c'est de profiter, de s'appuyer sur l'idée que cette représentation catégorielle de la société, nous ne cessons de la critiquer dans des sociétés de plus en plus individualistes. Je ne veux pas être lié, complètement défini par ma catégorie d'âge, de diplôme, de sexe, d'appartenance, etc. Je suis un individu singulier et on pourrait dire je veux être calculé autrement. Et je veux être calculé dans ma singularité, je veux être calculé dans la diversité des contextes dans lesquels je me trouve. Je ne veux pas être enfermé dans ces boîtes que les criminologues, les sociologues, les économistes, etc., et l'État ont posées sur ma vie, sur ma destinée. Est-ce qu'il y a un moyen de calculer autrement ? Et il me semble que la promesse de l'IA, du calcul sur les grandes bases de données, c'est de dire oui, on va pouvoir te calculer en dessous de ta catégorie. Et en dessous de ta catégorie, ça veut dire on va pouvoir te catégoriser de façon plus personnelle, plus singulière. On va pouvoir trouver des ajustements qui vont permettre d'optimiser la répartition des ressources et de donner à chacun quelque chose qui ressemble plus à sa trajectoire de vie, à ses aspirations, etc. Alors, je pourrais vous donner plein d'exemples mais d'algorithmes du monde numérique qui font exactement ça. Les techniques de publicité aujourd'hui en ligne n'ont pas besoin de savoir, contrairement à la crainte qu'on a toujours dans les débats sur la vie privée, ils se foutent de savoir quel est votre nom, votre âge, votre niveau de revenu, etc. Ils ne vous mettent pas dans des segments marketing, c'est des trucs à l'ancienne. Ils essayent de vous pister dans la singularité de vos traces de comportement. Et donc de prendre quelque chose de l'individu qui soit plus sophistiqué et plus complexe que simplement les grandes cases de la catégorie statistique habituelle, précisément parce que les nouvelles techniques de calcul, quand elles sont nourries par des données suffisantes, permettent de s'engager dans ces singularités-là de l'individu. Et on le voit notamment dans un des débats classiques dans les mondes numériques, alors l'État n'y est pas encore, mais on voit que les mondes de l'assurance, par exemple, sont en train d'y penser, de se dire que ce que disent les individus dans leur représentation, dans leur... ce qu'ils disent publiquement, ce qu'ils écrivent sur Facebook, sur les catégories auxquelles ils s'attachent, les déclarations qu'ils font dans les questionnaires, ce qu'ils disent auprès des sondeurs, est moins pertinent que la trace de leur comportement. Donc le biais central, et le biais numérique en fait de cette affaire, c'est de prendre les gens dans le comportement et non pas dans leur déclaration. Et c'est une tendance comportementaliste qui est extrêmement forte. Vous pouvez dire sur YouTube que vous aimez une vidéo avec un pouce ou en baissant le levant. YouTube n'utilise plus cette information, elle est trop déclarative. Vous pouvez très bien dire « j'aime cette vidéo » alors que vous ne l'avez pas regardée. Ce que veut savoir YouTube, c'est si vous avez regardé la vidéo du début à la fin. Et c'est ça qui va régler l'algorithme de façon centrale. Donc moi, il me semble qu'il y a une sorte de déplacement massif. Et ça, moi, ça me semble être le cœur des avancées les plus originales et en même temps les plus à discuter de l'IA, c'est de fabriquer une société dans laquelle on personnalise suffisamment pour essayer effectivement un ajustement qui est parfois désiré dans la société, d'être mieux calculé que calculé à travers des grandes catégories telles qu'on l'a beaucoup fait et telles que l'État l'a beaucoup fait. C'est là que je voudrais venir sur mes derniers éléments, puis je pense qu'après c'est beaucoup mieux de discuter. Bon, avec Simon Chignard, enfin, je ne sais même plus s'il est à Etalab, mais voilà, on a, et des collègues du Medialab, on a entrepris toute une série de discussions sur des algorithmes d'État très simples. Hein. Et alors là, je dis bien algorithme, je ne suis plus en train de dire intelligence artificielle, parce que parfois, ce qu'on appelle intelligence artificielle, c'est des techniques de programmation scriptée ou des techniques parfois extrêmement rudimentaires qui tout d'un coup, sous l'effet de la mode actuelle, sont appelées IA, à grand renfort d'effet de buzz. Et bon, je pense qu'il se passe pas énormément de choses actuellement dans le domaine des politiques publiques, mais il y a quand même plein de secteurs qui sont traversés par des réflexions sur les données et des réflexions sur les calculs, et qui sont évidemment des interrogations sur, parce que là je serais en désaccord avec Renaud Revel, je pense qu'il y a des spécificités de l'État à l'égard du calcul, des algorithmes et de l'intelligence artificielle, et que du coup c'est intéressant de les prendre en compte, et c'est intéressant de les intégrer dans des réflexions aussi sur cette appréciation, évaluation, moi je n'ose pas trop dire éthique, mais de la manière dont les algorithmes interviennent dans le travail de l'État. Alors, on a regardé ensemble quatre algorithmes, puis après, j'essaierai de tirer quelques petites, voilà, quelques petites impressions. Hein. C'est vraiment des impressions pour la discussion. Parcoursup, qui est un de nos bons exemples, et le passage de APB à Parcoursup, qui est un cas intéressant. Un truc qui est un algorithme d'une très très grande simplicité, qui sont les algorithmes, enfin les règles, on pourrait dire les scripts d'attribution des places en crèche dans les collectivités territoriales, sujet très intéressant. Un algorithme qui est, lui, on le voit bien au cœur des transformations sur la santé et qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle Scorker, qui est porté par l'agence de biomédecine et qui fait l'attribution de greffons cardiaques notamment, enfin cardiaques, après il y a d'autres algorithmes pour le rein, etc., mais qui font les bons appariements entre les personnes à greffer et les greffons. Et là, on est au cœur même de techniques statistiques importantes et qui posent évidemment des débats éthiques assez forts. Et puis, une autre technique qui est assez belle et qui, à mon avis, est très illustrative, donc j'en dirai un mot, qui s'appelle SIDNAV, qui est la vérification des bateaux qui partent en mer, hein, qui a été mise en place aussi dans l'État. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive dans ces différentes situations? La première chose, moi, que j'ai envie de dire, c'est que souvent, l'État va mettre en place un algorithme, et du coup, utilisant des méthodes de... J'arrive pas à dire rien, mais des techniques algorithmiques à partir de données, hein, on va dire, pour résoudre des problèmes de justice. Et je pense que c'est une des fonctions des algorithmes qu'il faut jamais oublier, notamment des algorithmes scriptés, c'est que d'une certaine manière, certains vont arguer, et parfois à juste titre, que l'algorithme est plus juste que de laisser à des humains prendre des décisions. Et que quand on met des règles, et quand ces règles sont l'objet d'un calcul qui va faire une prédiction statistique, on arrive à résoudre des situations dans lesquelles on peut dire qu'un principe de justice n'a pas été correctement honoré. On sait que les attributions de places en crèche sont soumises à toute une série d'aléas humains, personnels, de contournement de commission, de préférences personnelles, de modifications contextuelles des critères, qui font qu'on peut dire que la règle n'est pas complètement juste, hein, et qu'elle est très critiquée et qu'elle suscite du désaccord. L'exemple le plus fort était le système avant Scorker. Hein, les médecins qui connaissaient bien les techniques pour obtenir des greffons, qui avaient des réseaux interpersonnels, savaient comment présenter un dossier médical pour obtenir un cœur avant un autre. Et une évaluation à distance de l'attribution de ces cœurs montre qu'on ne distribuait pas nécessairement le bon greffon, le greffon à la personne qui en avait tout à fait le plus besoin, et que le système mis en place, en tout cas c'est l'évaluation qui est faite de Scorker, est sans doute plus juste dans la distribution de ces affaires. Donc c'est un premier élément, c'est que souvent on met en place un algorithme, une procédure, et là on voit bien la procédure, pour améliorer la situation. Le deuxième élément, c'est que du coup on centralise, hein, et que moi je pense qu'un des effets centraux sur l'État, c'est qu'on voit bien qu'on est dans une dynamique un peu contradictoire pour les politiques publiques. On dit à la fois qu'il faut donner de l'autonomie à la décision locale, qu'il faut renforcer les acteurs de l'État au niveau local, et que en même temps, ces dynamiques, à partir de la donnée et à partir de scores prédictifs, elles ont un effet de centralisation qui est fort, qui peut être parfois bénéfique, et je pense que pour Scorker, ça l'est, mais qui peut évidemment être problématique, et on voit bien qu'on ne va pas centraliser les critères d'attribution des places en crèche, dont les collectivités territoriales préfèrent définir les critères elles-mêmes. La troisième dimension, sur laquelle je vais très vite, parce que je voudrais insister sur la quatrième et dernière, la troisième dimension, c'est qu'on voit bien que ces dispositifs, ils se mettent en place dans l'État, accompagnés de théories sur la réduction des coûts et l'économie, et on pourrait dire les formes, on pourrait dire les plus économicistes du néo-management ou du management public au sein de l'État. Donc il y a aussi l'idée que ça va réduire toute une série de coûts, et qu'on voit bien qu'il y a des questions difficiles dans l'application et la mise en place de ces algorithmes avec les personnels de l'État dans ces questions. Et puis, je voudrais essayer de m'arrêter sur un point plus complexe, mais qui est comme ça une petite hypothèse. Mais moi, ce qui me semble, c'est qu'en réalité, et là, on voit bien qu'on est au cœur des problèmes de l'État, c'est qu'une partie de ces algorithmes, et ça a été très bien dit par Renaud Revel, il faut... Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une éthique globale de l'IA, ça n'a aucun sens, il faut prendre les contextes très particuliers. Il y a des algorithmes qui distribuent ou qui allouent des ressources rares. Et donc, quand on alloue des ressources rares, il faut trouver une manière de sélectionner ou d'appareiller correctement la ressource rare pour qu'on attribue bien cette ressource aux personnes que le principe qu'on a choisi désigne comme étant les méritants cet objet. Donc, là, on est au cœur des processus de recrutement, on est au cœur du processus d'attribution des greffons ou des places en crèche, et que quand on procède à cette allocation, on voit bien qu'une des manières pour l'État de justifier les politiques publiques a été de dire on définit clairement des critères d'attribution. Donc il y a des gens qui ont des droits, s'ils répondent à un certain nombre de critères qui sont dans les données initiales, s'ils peuvent faire valoir qu'ils répondent à ces critères, ils bénéficient de la ressource que l'État, la collectivité locale, leur distribue. Ils n'ont pas d'autre chose à prouver que de prouver qu'ils répondent aux critères. Et ça, c'est, me semble-t-il, au cœur d'une définition, on va dire, un peu républicaine, légale, rationnelle, de la compréhension par les individus des droits dont ils peuvent bénéficier et de l'obtention de ces droits. Il me semble que dans une partie des intentions ou des usages qu'on est en train de faire des algorithmes publics, cette définition vacille. Alors, cette définition vacille. Je n'entre pas dans le débat Parcoursup, mais elle vacille dans Parcoursup. Hein. On voit bien qu'une partie, alors parce qu'il faut rentrer dans les motivations internes du législateur, mais une partie de Parcoursup est destinée à ce que des filières qu'on appelait, il y a des filières sélectives dans l'enseignement supérieur, il y a des filières non sélectives, et notamment universitaires. Et en réalité, avec Parcoursup, on a introduit le fait qu'il y a de la sélection dans les filières non sélectives. Cette sélection est assez faible, elle se fait au nom d'un principe d'orientation et donc d'une meilleure allocation de la place à l'université en fonction du dossier du candidat. Mais plus on remplit des données sur le candidat avec son parcours scolaire, sa lettre de motivation, appariée par les décisions qu'ont pris les UFR pour recruter tel ou tel type de candidat, en réalité, les filières dites non sélectives deviennent implicitement des filières sélectives. Alors, on voit bien ce mécanisme se mettre en place, mais je voudrais le regarder de façon plus forte avec CIBNAV. Alors, CIBNAV, c'est un peu compliqué parce que vous ne devez pas connaître, j'y vais en deux minutes. Mais CIBNAV, c'est un principe dans lequel on a des inspecteurs qui vont vérifier les bateaux tous les ans, les bateaux qui vont en mer, les bateaux de pêche, etc. Et ils viennent vérifier la qualité du bateau, ils ont une checklist, et ils montent sur le bateau, l'inspecteur vient, et il vérifie que tout est en ordre, etc. Et puis il donne son certificat, et tous les ans, tous les bateaux sont vérifiés, et du coup, il y a un corps d'inspecteurs attaché à sa profession qui vient visiter tous les bateaux. Et là, on fait une opération qui est typiquement IA, c'est-à-dire que la proposition, c'est qu'on a une autre base de données, qui n'est pas la base de données du matériel des bateaux, mais qui est la base de données des accidents en mer. Et les accidents en mer, c'est des marins qui sont sur leur bateau et qui appellent un numéro pour dire « j'ai un accident en mer ». Et donc, on a une statistique sur les bateaux qui ont des accidents. Et tout d'un coup, quand on associe la base de données du matériel des bateaux avec la base de données des accidents, on peut faire une prédiction, et ça, c'est le cœur des techniques de machine learning, on peut faire une prédiction sur les bateaux qui mériteraient plus d'inspection que les autres. Les bateaux ne sont plus tous inspectés tous les ans, mais on va proposer d'inspecter les bateaux en fonction d'une prédiction d'accidentologie, sur les chances qu'ils aient un accident en mer qui soit montré. On introduit une évaluation du futur dans l'organisation du travail de l'administration au quotidien. Alors, je prends ce tout petit exemple parce qu'il me semble que c'est le cœur même, en réalité, de ce qui est en train de se jouer avec l'IA prédictive sur des bases de données massives. C'est-à-dire, on est en train de passer d'objectifs qui étaient définis par les critères initiaux à quelque chose, à une prédiction qui est définie par un objectif qui devient un objectif de politique publique. On fait rentrer une évaluation du futur à l'intérieur du calcul. Et évidemment, on transforme le sens de l'État. On y intègre parfois très positivement et parfois peut-être de façon plus discutable, on y intègre une évaluation du futur. On pourrait très bien, pour les places en crèche, là je suis en train d'improviser, dire on ne va pas donner la place en crèche aux mères célibataires qui ont 3 enfants, critère. On va donner une place en crèche en fonction d'une évaluation du taux de réussite scolaire ou de bien-être des enfants qu'on va pouvoir évaluer dans une autre base de données. On se sert d'une évaluation, ce que font beaucoup l'examen d'évaluation des politiques publiques. On se sert d'une évaluation de la réussite des politiques publiques pour tel ou tel type d'individu pour définir les critères initiaux qui sont offerts au calcul. Alors on sait très bien que c'est ce qui se passe dans le monde numérique, mais qu'évidemment dans l'État, on a sans doute une définition assez différente de l'accès au droit qui est proposée et qui est un peu en tension avec ces systèmes. Et moi, je pense qu'une partie des débats qu'on peut avoir sur l'introduction de ces techniques dans l'administration d'État, c'est qu'évidemment, on met en tension ces systèmes. Ça se voit, mais je n'entre pas dans ces débats, je laisse ça pour la discussion, dans toute une série de débats, notamment le fameux article de la loi Le Maire, hein, je crois, sur l'explicabilité des algorithmes. Donc, on voit bien qu'on, quand on dit explicabilité des algorithmes, ça veut dire qu'on est capable de dire quels sont les critères qui ont permis de désigner, alors que ça a été très bien dit par Renaud Revel, dans les algorithmes de deep learning, ben on voit plus les critères, enfin les critères sont flous, on les reconstruit ex post, mais c'est en réalité, ils sont mouvants et oscillants parce qu'ils ont été calculés d'une manière assez différente. Bon, voilà, excusez-moi d'avoir été un peu flou comme ça, mais j'espère que j'ai ouvert assez de questions pour qu'on discute. Merci.
Oui, en effet.